Bonjour, vous êtes sur Radio Grand Ciel pour le quart d'heure réservé aux petits. Je suis Isabelle et avec la complicité de Roland à la technique, je vous emmène en Alsace, du côté du village de Alec-le-Haut. Le conte a pour titre Florent et son petit frère l'âne. Au 7e siècle, une forêt s'étendait là et dans cette forêt demeurait un curieux ermite. Homme d'église, il venait d'Écosse, son pays. Il avait pourtant passé l'âge de l'aventure. Son nom ? On ne disait encore que Florent. Il avait construit sa cabane de ses mains, et sans doute non sans peine ni maladresse, car le voyant faire, de compatissants bûcherons et maçons voulurent l'aider. Florent refusa. « J'aurais honte de vous apporter ce surcroît de fatigue alors que vous travaillez déjà de l'aube au soir pour que vos femmes et vos enfants ne meurent pas de faim. » Ayant bâti, il sema, planta. Hélas, la contestation ne tarda pas. Elle vint des animaux de la forêt qui, en une seule nuit sauvage, saccagèrent tout. Florent recommença. « Eux aussi. « Bon père, écoutez-nous, » disaient les forestiers. Quelques pièges placés juste. Voilà ce qu'il faut. Laissez-nous faire. Pas question. Pour le bon père, l'envahisseur, c'était lui. J'ai chassé de ces lieux les premiers occupants. Ils sont en droit de me rendre l'appareil. Mais, bon père, Nenni, je vais leur envoyer un messager. J'aurais dû y penser plus tôt. Pour qu'ils me pardonnent et qu'ils connaissent mes intentions. Là où je suis, ils sont toujours chez eux, et je ne plante ni ne sème pour m'enrichir, mais pour nourrir nos frères. » Les coupeurs de bois échangèrent des regards inquiets. Ce bon père qui savait tant de choses, voilà qu'il n'avait plus sa tête. Mais Florent, qui se remettait au travail, après avoir accroché son manteau de bure à un rayon de soleil, je répète ce que j'ai lu. Voyant une pie s'envoler, « Et là, ma commère !» La pie piqua droit vers lui. Voulez-vous aller dire? Si elle voulait, dire quelque chose? N'importe quoi, à n'importe qui. Que faire de mieux? Florent eut tout juste le temps de lui expliquer ce qu'il attendait d'elle. La pie filait en flèche, jacassant la bonne nouvelle à tous les échos. Son ambassade fut un succès. À peine méfiants, poussés par leur éternel besoin de croire en l'homme, les expropriés s'avancèrent. Aucun ne manquait, du loup au mulot, en passant par le renard, le lièvre, le cerf branchu et la douce biche. Le pacte était conclu. Les forestiers n'en crurent pas leurs yeux à la vue des plus redoutables colocataires, assis en rond autour de l'ermite, frottant leur tête contre son épaule ou le suivant pas à pas, d'un air dévot, quand il lisait son bréviaire. Et nombre de leurs congénères accoururent de lointaines contrées. Les communications sont rapides dans le monde animal, qui parfois étaient d'espèces ignorées en ces lieux. Bien entendu, Florent moissonnait d'année en année davantage, et les indigents, quelques autres aussi, n'avaient qu'à se servir. Il ne gardait pas une mesure de blé pour lui. On se demandait s'il lui arrivait de manger quelquefois. Il portait toujours son loqueteux manteau de bure quand il ne l'accrochait pas à un rayon de soleil pour bêcher librement. L'hiver, le vent glacial, la neige continuaient à mener Sarabande à travers sa cabane dont les planches disjointes craquaient et se fendaient aux chaleurs de l'été. On parlait de lui loin à la ronde. Des mères lui amenaient leurs enfants pour qu'il les bénît. Des malades, venus lui demander la santé, repartaient guéris. N'eut-il jamais envie de fuir, comme peut-être il avait fui l'Écosse, à la recherche d'une solitude qui ne semblait pas vouloir de lui? Sa réputation avait franchi les grilles du château royal et ému le souverain. Il s'agit du roi d'Austrasie, Dagobert II, fils de Sigebert III et petit-fils de Dagobert Ier. Ce distrait qui mettait sa culotte à l'envers. Or la fille des souverains était atteinte de mutisme et de cécité. Voilà pourquoi un messager partit pour Alec le Haut. Il y trouva l'ermite en grand parlement avec ses amis de la faune et il se sentit un peu mal à l'aise. « Ne craignez rien, messire, » assura Florent qui avait posé sa main rugueuse sur la tête d'un loup magnifique assis à ses côtés. « Approchez, nos frères sont heureux de vous accueillir. » Surmontant mal sa répugnance, lançant de tous côtés des regards inquiets, le messager exposa l'objet de sa visite. Mais parce qu'il n'est pas poli de s'entretenir avec un tiers devant un auditoire qui ne comprend pas ce que l'on raconte, l'ermite répétait au fur et à mesure les paroles du messager. On ne peut pas dire qu'il les traduisait. Tous deux usaient des mêmes mots. Seulement, le don de communiquer avec les bêtes n'est pas une affaire de mots. Passant par la bouche de l'ermite, les explications du messager devinrent claires aux braves créatures, tout apitoyées par le sort de la princesse aveugle et muette. Un différend s'éleva entre les deux hommes à propos du moyen de locomotion offert par Dagobert. Rien moins qu'un superbe cheval en somptueux harnais, tout velours et dorure. À tel point que la noble bête, qui avait du tact, était toute gênée de son élégance au milieu de ses congénères vêtus au naturel, c'est-à-dire de leurs seuls poils luisants et drus d'animaux libres. Le plus humble des serviteurs de Dieu n'a pas droit à si luxueux coursier, déclara l'ermite, et ce fut son ânon favori qu'il monta. Mais l'ânon, toujours d'humeur vagabonde, prétendit choisir son chemin qui était le plus long. Florent dut le rappeler à l'ordre. Le roi nous attend, cher petit frère. On ne fait pas attendre le roi. Le cher petit frère ignorait tout du protocole des cours. L'eût-il connu que cela n'eût pas beaucoup modéré ses dispositions indépendantes. Mais son maître présenta la chose autrement. On serait plus fautif encore de faire attendre une malade. L'habile rappel eut aussitôt raison des velléités folâtres de l'ânon qui avait mauvaise tête et bon cœur. Il démarra, terrible, dans la bonne direction, et pas un instant ne ralentit son train. Quand ils arrivèrent aux abords du château, il avait laissé loin derrière lui le messager et son ostentatoire coursier. Mais un événement plus étonnant encore se passait au château. Les malheureux souverains, assis près de leur enfant infirme, vécurent une minute inoubliable. La jeune princesse s'était tout à coup soulevée du sofa où elle était étendue et les regardant tour à tour s'écria « Madame ma mère, monsieur mon père, essuyez vos larmes !» Elle parlait, elle voyait. Elle réclama un miroir et sourit au-dessus de la plaque de métal brillant qui en tenait lieu à l'époque. Décrire la joie de ses royaux parents est impossible. Tandis que la petite princesse, reposant la plaque miroir, s'écriait de sa jolie voix neuve. « Il arrive ! Il arrive le saint homme qui m'a rendu la parole et la vue !» Cette fois, c'était avec les yeux de l'âme qu'elle voyait, et ses yeux de l'âme ne la trompaient point eux non plus. L'ermite et son ânon s'engageaient sur le pont-levis abaissé. Entraînés par leur fille, les souverains s'étaient précipités à sa rencontre. Le roi saisit la corde qui servait de bride à l'humble monture. Les trompettes retentirent, les courtisans se pressaient en tumulte. La reine était tombée à genoux. La jeune princesse, qui avait fait de même, toucha le sol du front, ses longs cheveux étendus comme un tapis sous les pieds de l'ânon qui portait l'homme de Dieu. « Remerciez le Créateur, et non sa créature, protestait le vieillard. On dira par la suite qu'il avait voulu que le miracle se produisît à distance du château, de façon qu'on ne lui en attribuât pas le mérite. Mais il n'avait pas prévu l'esprit de divination de la princesse. Toutefois, il ne se déroba pas au bienfait du roi. Deux chariots pleins le suivaient quand il repartit sur son ânon. Il faisait la tête, l'ânon. Florent ne manqua pas de s'en apercevoir. « Tu m'as trouvé sensible aux richesses, cher petit frère? Rassure-toi, rien de ce qui m'a été donné ne restera entre mes mains. » L'âne approuva d'un braiement, mais presque un braiement de politesse. Et Florent, qui lisait en lui, reprit. « Ah, selon toi, j'aurais dû montrer moins de hâte à accepter les présents du roi ?» « Oui, oui, » fit l'âne, levant et baissant sa longue bonne tête. « Cher petit frère innocent, c'est à regret que je vais te dévoiler la raison de ma hâte. Vois-tu ? » Florent soupira honteux. « Au contraire de vous autres, les hommes ont la reconnaissance fugace. Quand ils l'éprouvent, il faut en profiter sur le champ si l'on ne veut pas que la réflexion la rattrape. » Ils étaient arrivés à la cabane. « Était-ce bien sa cabane ? » En son absence, maçons et bûcherons, ses amis de la première heure, lui en avaient bâti une propre à résister aux intempéries. Devant ce témoignage, l'ermite se repentit du jugement qu'il avait formulé un peu plus tôt. « Que Dieu me pardonne d'avoir douté de mes semblables !» Aussi prit-il pour une punition du ciel l'extraordinaire avatar qu'il eut à subir. Il se trouvait désigné, à l'unanimité, pour succéder à l'évêque de Strasbourg décédé. Dieu le renvoyait parmi ces hommes qu'il avait essayé de fuir. Qui pis est, en le plaçant sur l'un de ces faits si dangereux pour l'humilité. Mais ce n'était là que scrupule d'une âme tourmentée de perfection. Il remplit sa haute charge en saint qu'il était déjà, car l'ermite d'Alec le Haut a été canonisé. Sa fête tombe le 7 novembre, indique votre dictionnaire. Des calendriers donnent cette fête à Saint-Cloud. Mais il y a bien la place pour deux. Que le récit présente avec le nôtre quelques variantes, il n'y aura pas là matière à s'étonner. Parfois, histoire et légende se superposent de si près qu'il est difficile de ne pas les confondre. Même si nous ne sommes pas le 7 novembre, je souhaite quand même une bonne fête aux Florent. À Roland, je dis merci pour la technique. Et à vous, je vous dis à bientôt, j'espère. Au revoir.